Bonsoir, excusez-moi, je suis trop fort. Bonsoir. Voilà, nous sommes en direct depuis les studios d'FM+. On est mardi soir. Et c'est le moment de la lecture des textes écrits à l'atelier d'écriture radiophonique. Vous entendrez par ordre d'apparition Clément, Pierre Lune, Keira, Carolina, Nanou, Nicole et Marie. Voilà, on a bien bossé pour vous. Et c'est Clément qui va commencer. Clément.
Le soleil venait de se coucher, allongeant les ombres découpant la gare de Perpignan. Le voyageur grelottait, secoué par ce soir d'hiver. Ses chaussures étaient trouées. Son manteau sale dégageait une odeur de viscères et de tabac froid. Il avait abandonné son travail aux abattoirs de Clermont-Ferrand. Les hurlements des porcs lui laissaient des acouphènes, écho des sacrifices carnistes. Sur le quai, à un croisement de regards, une effluve de haschich, un hippie. Le saltimbanque s'adressa au errant d'un ton monocorde. « Man, t'as pas une feuille ? 2,50 € peut-être ?» Son poing se serra, sous le coup du culot de son interlocuteur. « 2,50 €? Le prix d'une pitance, alors que son estomac est creux depuis la veille. » À l'envers de ses paupières, il se vit écraser ce crâne de moineau contre le mur, faire s'embrasser ses arcades sourcilières. Il n'y a que les montagnes qui ne se croisent pas. C'est un mensonge, car cela arrive sur le temps long. Le hasard voulut que ce soir-là, ces deux piques antagonistes ne pouvaient que se rencontrer dans un lieu public. Il fallait au voyageur un prétexte pour satisfaire sa toute-puissance à l'abri des regards. Il ne supportait pas toute cette fausse bienveillance, cette nonchalance, cette passivité complice des barbaries structurelles. Ce puant doit payer. Lui qui n'a jamais connu les levées aux aurores, les coups de ceinture d'un père qui l'aurait maintenu dans le droit chemin. Le premier propose au second de remonter la voie ferrée, en quête d'un coin sombre où ils pourraient fumer ensemble. Il va repartir en Yannick Noah, sans ses chaussures, pensa l'ex-boucher. Ce n'est qu'une fois toutes les conditions réunies, prêt à passer à l'acte, qu'il prit du recul. Défaisant son keffier, le beatnik a révélé un pendentif présentant une photo de sa fille. Sous la protection de l'enfant, ils parlèrent jusqu'au matin. Clément. Merci Clément. Alors, Pierre Lune est installé. Allez, Pierre Lune, c'est à toi.
1984. Il fallait donc que je déménage en Normandie. C'était les premiers jours d'automne, encore plein des douceurs de l'été, et j'avais décidé de rendre visite à un vieil oncle dans la campagne normande. Peut-être pourrait-il m'aider. Le bus m'avait déposé à l'entrée du chemin, un chemin étroit et sombre, au bout duquel on pouvait deviner une bâtisse haute, mur blanc, toit d'ardoise. Tout en marchant, je me demandais si je le reconnaîtrais. 30 ans s'étaient écoulés. Une main de bronze servait de heurtoir, 3 coups frappés. La fenêtre de verre de la porte s'ouvre et se referme. Silence. J'attends. Du mouvement à l'intérieur. Et la voix grave de l'homme. « Je reviens !» Après quelques minutes, la porte s'ouvre. Présentation, étonnement, et nous voilà assis dans son salon. C'est un drôle de bonhomme. La soixantaine, encore bel homme, avec sa chevelure ébouriffée à peine blanchie. La conversation s'engage. Je remarque les clés de la maison posées sur la table. Je me dis que ça doit être une manie liée à ce lieu isolé de refermer la porte et d'emmener les clés. Il a l'air en fait assez maniaque, plaçant et replaçant sans cesse les objets épars sur la table. Le vent au dehors fait claquer les volets, et par 3 fois il se lève pour refermer la porte du salon. Nous évoquons les rares moments que nous avons passés ensemble. « Et Estelle va bien ?»« Oh, elle vieillit mal, c'est pas toujours la joie. » Elle est partie sur Rouen faire des courses. Elle va bientôt revenir, dit-il en se levant comme pour m'inciter à partir. Un grand coup de vent ouvre la porte du salon. Il se précipite et la claque violemment. Sidération. En un éclair, j'ai eu le temps. Oui, j'ai vu. J'en suis sûre, c'est sûr. Une forme assise sur le sol, le dos courbé par les deux mains attachées ensemble au radiateur, maigreur effrayante, des yeux suppliants, un bâillon sur la bouche. Il a pris quelques pommes, les a mis dans un sac qu'il m'a tendu. 2 pas dans le couloir, je suis près de la porte, dans le vide.
Merci Pierre Luna. Les pommes de Rouen. Merci beaucoup Pierre Luna. Alors, Kéra s'est assise face de moi, micro numéro 3. Et c'est à toi.
Jeudi 25 octobre 1981, Yolande se prépare à sortir de chez elle. La jeune fille sereine cherche à affronter le pire en elle, sa peur. La peur, compagne terrible de l'enfance. Yolande habite dans le centre-ville d'une petite bourgade de 8000 habitants environ, mais une sous-préfecture quand même. Depuis la mort brutale de son frère, Simon, le pauvre garçon s'est pendu haut et court après sa sortie de prison. Yolande souffre de dépression chronique. Elle ne dort presque plus et s'alimente peu, mais refuse toute camisole chimique. Pas de traitement. Yolande souhaite en finir avec la malédiction qui pèse sur la famille. La jeune fille a souvent entendu parler des bienfaits de l'énergie contenue dans l'air le matin, très tôt. L'atmosphère à l'aube, où la magie et la guérison, pour quitter la mélancolie à tout prix. Il faudra marcher, pénétrer un certain lieu dit excentré et arpenter les sentiers pour se diriger vers la roche percée dans la pénombre de la nuit. Yolande respire lentement, s'attache sa longue et soyeuse chevelure blonde et se chauffe surtout correctement. Elle quitte l'appartement où dorment encore ses parents. La roche percée brille au loin devant elle. Sur la table de la cuisine, le journal de la veille traîne encore. Quelques traces de café tachent la première page. Le tueur à la serpe a frappé une dernière fois aux alentours. La dernière victime du tueur en série, une blonde aux cheveux longs, repose encore dans le cimetière voisin. Sa tombe est fraîche. La nuit finit, sur la roche percée. Une silhouette apparaît au loin. Une poussière étrange se soulève derrière ses pas. Quel magnifique lever de soleil! Le rouge du ciel illumine l'horizon. L'énergie solaire se respire. Et Yolande, frêle et vacillante, lève la tête pour sourire et recevoir.
Merci Keira, merci beaucoup. Eh oui, alors cet atelier d'écriture radiophonique de FM+, c'est moi Pascal qui l'anime et qui la met en monde. Et tout le monde peut venir si vous vous renseignez. Voilà, c'est le mardi, on se donne rendez-vous à 18h30 en bas là. Et ensuite on travaille et on prend l'antenne à 21h. Allez, en tout cas merci Keira. Et c'est au tour de Carolina. Et Carolina, c'est à toi.
Lourde et grasse, c'est ainsi qu'Alice se visualisait à cet instant précis. Enfoncée dans la poudreuse jusqu'au cou, elle se débattait inutilement pour en sortir. La neige s'était infiltrée dans ses gants, dans sa combinaison, contre sa nuque, mais avait épargné ses chaussures qui lui comprimaient les mollets. Son mari la regardait du dessus, les pieds bien installés sur ses deux skis. Il semblait parfaitement à son aise, comme s'il était né avec aux pieds. Il l'observait se débattre tel un insecte bloqué sur le dos et lançait aléatoirement quelques conseils inutiles d'un air moqueur. « Mets-toi debout, aide-toi de ta tête !» et ajoutait dans un souffle « Tu es ridicule !» Alice avait perdu ses deux bâtons de ski avant de chuter et ses deux skis étaient introuvables loin en profondeur dans la poudreuse. Ses lourdes chaussures de ski l'incommodaient et à chacune de ses tentatives, elle s'enfonçait davantage. Le sentiment d'être piégée dans un sable mouvant glacial la terrifiait. Elle ne savait pas quelle heure il était, mais elle avait le sentiment d'être coincée ici depuis une éternité. Il neigeait abondamment depuis la veille et son corps se confondait avec la neige. Elle avait crié plusieurs fois son désespoir, mais rien ni personne ne l'entendait dans cette forêt dense, loin des pistes, loin de tout. Ils étaient introuvables. Son mari avait refusé de l'aider. Il se contentait de l'observer. Elle avait remarqué un changement dans son regard. Quelque chose de très subtil, comme une lueur de plaisir. Elle le supplia. « Aide-moi !» Alice commençait à pleurer. Elle savait que son mari détestait ça, mais elle ne put s'empêcher. Dans son agitation, elle ne comprenait pas pourquoi il l'avait emmenée jusqu'ici. Elle qui savait à peine skier, le hors-piste était hors de sa portée et la peur l'avait poursuivie sur tout le trajet. « Pourquoi tu ne m'aides pas ?» L'homme prit du temps avant de répondre, le visage tourné vers le ciel, recevant chacun des chaque flocon sur la peau sous une expression envoûtée. parce que tu dois y arriver toute seule, comme une grande fille. » Il l'observait. Les pattes du cafard commençaient à s'agiter un peu moins. Elle commençait à fatiguer. « Je t'en supplie, j'ai peur. Personne ne t'aidera si tu ne t'aides pas toute seule. » Elle le regardait sans vraiment le voir. Ses larmes se mélangeaient aux flocons de neige sur sa peau, engourdissant davantage son visage. Elle ne sentait plus vraiment ses mains et elle fatiguait. En le suppliant de nouveau, elle croisa son regard et comprit. Il ne l'aidera pas. Il la laisserait ici mourir s'il le fallait. Cette pensée terrifiante la submergea et elle s'arrêta totalement de bouger, l'œil rivé sur celui de son mari, avec cette lueur qu'elle ne lui connaissait pas. Comprenant ce qui allait l'attendre, elle relâcha totalement ses muscles. Bien que son corps fût immobile, ses pensées se pressaient dans sa tête. Un tourbillon de souvenirs, de joie, de déception et de regrets l'écrasait. Alors qu'elle avait fermé les yeux, elle perçut à peine un son au loin. Une main agrippa sa veste. Cette main était celle de son mari. Il la tira hors de son piège de glace, sans un effort, et la remit debout contre un arbre. Alors qu'il farfouillait dans la neige, elle vit des silhouettes au loin. Son mari et eux échangèrent quelques mots, et elle l'entendit cracher son rire gras si spécifique. Il la plaça sur ses deux skis. Alice suivait chacune de ses instructions docilement, et ils repartirent vers la piste.
Wow. Merci Carolina. Merci beaucoup. Nanou s'est assise, me regarde pour me signifier toute son amitié, hein, au moins. Yes, en tout cas Nanou, c'est à toi.
La ruelle était sombre, la nuit pas encore tombée, entre chien et loup. La peur de se perdre, qu'elle avait ressentie jusque-là, s'était soudain transformée en une terreur sans nom. Les bruits des pas derrière elle se rapprochant de plus en plus. Cet homme qui s'exprimait d'une façon qu'elle ne connaissait pas, dans une langue qu'elle n'avait jamais entendue auparavant. Ce bruit rauque, ce son angoissant. Des pas qui s'accélèrent, le bruit qui se rapproche, proche, tout proche. Des frissons secouaient le corps de la jeune femme, désespérément terrorisée. Ce qu'elle entendait ne correspondait à rien de connu, à rien de vivant. L'homme qui la suivait, si c'était un homme, ne parlait pas, ne chantait pas, ne criait pas. Il semblait vociférer comme un animal en chasse, dans une langue qui n'existait pas. La fin était proche, elle le savait, le sentait inéluctablement, dans le creux de ses reins, dans le fond de son ventre. Ce bruit rauque, ce son angoissant, encore, encore, et les bruits des pas de plus en plus proches. À moins de quelques mètres maintenant. Elle savait précisément qu'elle allait mourir là, dans cette ruelle sombre, où la nuit était maintenant tombée, sans réverbère, sans lumière, et dans un silence de mort. Avec quelle arme allait-il l'aborder? Quelle serait la longueur de la lame qui lui trancherait la gorge? Serait-elle violée avant ou après avoir été rouée de coups, puis égorgée? Même si la peur l'empêchait maintenant de respirer, elle voulait savoir combien de temps il lui restait dans sa courte vie, comment on allait la trucider, à quelle sauce, enfin, allait-elle être mangée. L'être qui la suivait ne parlait pas sa langue, était plus proche d'une bête cruelle que d'un être humain capable de compassion ou de remords. Alors, comme son sort était jeté, elle décida. Maintenant qu'elle sentait le souffle de son agresseur lui caresser le bas de la nuque, de se retourner avec un courage qu'elle puisa dans les méandres de sa courte vie. Elle se retourna, et là, devant ses yeux ébahis, l'homme qui la suivait retira brusquement le masque ahurissant qui lui couvrait la tête. « Émilie ? » demanda-t-il avec un accent slave à peine masqué. « Non, je m'appelle Laurine. Qui êtes-vous ? Pourquoi me poursuivez-vous ? » « Mais je n'y comprends rien. Que faites-vous là au beau milieu du plateau de tournage ?»« Plateau de tournage ? Mais, coupez ! Coupez ! 10 minutes de pellicule foutue, gaspillée, et le bruitage, les effets sonores, le décor. Bravo, ah oui, bravo ! Toi la bête, tu n'es pas capable de suivre la bonne comédienne ? Et vous, vous n'avez pas lu les panneaux ? Qui êtes-vous ?
Je ne suis personne. Je passais par là. Je passais juste par là.
Où est Émilie, bon sang ?
Ah, moi ! Émilie, la petite actrice blonde qui tenait le rôle de la belle ? Je sais où elle est, moi.
Mais dis-moi, bon sang, dis-moi ! Cela fait maintenant 20 minutes qu'on l'attend sur le plateau.
Ah, eh bien, à mon avis, vous allez l'attendre encore. Je l'ai vue au bout de la ruelle. Elle gisait, sans vie, dans une immense flaque de sang.
Yes. Merci Nanou. Le sang coule ce soir. Le crime. Le crime traverse la ville de Montpellier sur le 91 de la bande FM. Merci beaucoup Nanou. Nicole est dans le starting block. Allez, Nicole, c'est à toi.
L'impression d'avoir déjà vécu une situation, vous connaissez ça ? Ce sentiment étrange face à une réalité dédoublée. Et vous êtes plongé dans une distraction soudaine et totale, dans un oubli de soi, une confusion indicible, dans un espace et un temps en parallèle. Vous connaissez ça, Lucien ? Assise au volant, ses mains gantées calées vers le bas, Adeline fixe la route que l'humble faisceau lumineux jaunâtre, découpé par ses phares, semble avaler, sitôt traversé. Nerveusement à côté d'elle, Lucien tambourine du bout des doigts sur la portière, scrutant la nuit noire. L'horloge est bien avancée. 2 ou peut-être 3 coups ont sonné à l'église de ce village normand, déjà loin derrière eux. Une sonnerie téléphonique, stridente, les a jetés hors du commissariat de la grande ville côtière. Une voix sans timbre, presque atone. « Venez vite, il y a au moins un mort, c'est horrible !» Puis quelques détails. Le nom d'un village, le bord d'une petite rivière, la vision cauchemardesque d'un crime qui les attend. Les informations murmurées laissent parler l'angoisse de celle qui les livre. Et maintenant, les voilà lancés sur la route cantonale, mâchonnant leur fatigue et le souvenir d'un sommeil interrompu trop vite. Le village approche, des silhouettes fantomatiques apparaissent et disparaissent dans la lueur des phares. Adeline se crispe. Lucien vérifie la présence de son arme dans son étui. Est-ce que quelqu'un a traversé la route devant eux ? Une forme bondissante ? Un humain ? Un animal ? Ou peut-être pire ? Adeline hurle, braque brusquement son volant pour l'éviter. La voiture s'emballe, dérape. Sa vitesse la jette sur le côté. Un fossé, un tonneau, un deuxième, un troisième. La voilà, les 4 pneus en l'air, moteur fumant. La nuit résonne encore des cris et des bruits de tôle maltraités par les chocs. Tête en bas, un peu de sang coulant de sa tempe, Adeline regarde Lucien. L'impression d'avoir déjà vécu une situation jusque dans ses moindres détails. Vous connaissez ça ? Puis elle se tait.
Yes, hein, une impression de déjà-vu. Ah, bravo Nicole. Bravo, bravo. Alors, Marie, c'est à toi.
Maria est assise près de la fenêtre de la petite cuisine de son appartement parisien. Elle a gravé les 5 étages, soit 75 marches en bois, en s'appuyant sur la rampe froide et poussiéreuse. A posé son sac de voyage dans l'armoire du couloir. La porte a grincé et elle s'est dit qu'encore une fois, il n'avait pas réparé. Elle s'est alors dirigée vers le frigo, puis vers le four, puis vers la table. Encore une fois, il n'avait ni mis le couvert pour l'accueillir, ni laissé quelques traces de nourriture fraîche et comestible. Elle s'est effondrée, molle et lasse, sur la chaise jaune. A ôté son blouson qu'elle a laissé glisser à ses pieds. A ouvert son sac à main, pris son paquet de Marlboro et son briquet I Love Paris. Maria se lève, péniblement. « Tu te laisses aller, tu fumes trop, t'as les os qui craquent », dit la petite voix en l'absence. Elle ouvre la fenêtre et crache la fumée à la gueule du toit d'en face. Elle est seule. Encore une fois, monsieur, j'ai rien fait et Dieu sait où. Au bar du Père Leroux, avec Edgar et la clique, avec une de ces pétasses du dixième qui s'arrondissent les fins de mois à coups de « Tu viens chérie », dans la chambre jaune de l'hôtel de la Voix sans issue, en mode roucoulement avec la femme de son copain Con. Elle a vu des textos sur son smartphone qui voulaient tout dire. Mais comment lui dire ? Que dire ? Ça fait des mois qu'ils ne se parlent pas. Les mots sont là, en boule dans le plexus, en tas dans la gorge, en vrac dans le crâne. Ils tournent sur eux-mêmes, dans une danse effrénée et noire. Ils s'agitent, changent de sens et se fracassent sur le mur du silence. Maria aspire sa dernière taffe, s'avance vers le tiroir découvert sous la plaque chauffante, met sa main glaciale et inerte sur la poignée, la tire vers elle et prend le couteau japonais. Il va rentrer, ce connard. Encore une fois, il va jeter ses godasses dans l'allée. Jeter de loin un « ça va chérie, en forme ?» Se diriger aux toilettes. Encore une fois, elle l'entendra pisser ses bières. Encore une fois, elle lui dira « j'en peux plus, c'est quand que tu changes, qu'est-ce qui nous arrive ?» Encore une fois, la bête se déchaînera à coups de « qu'est-ce qu'il y a encore ?»« Tu cherches, tu vas l'avoir mon poing sur la gueule. » »« Et voilà, tu m'as chauffé, tu l'as eu et t'avises pas à te plaindre. » Maria serre le couteau japonais dans ses deux mains. Ne pas trembler, que ça s'arrête. Ne pas pleurer, que ça s'arrête. Ne pas parler, frapper, que ça s'arrête. Le bruit de la clé dans la porte, une ombre dans le couloir. « Maman, c'est moi, j'ai oublié ma raquette de tennis dimanche en partant chez papa. Ça va ? T'as l'air bizarre. »
Right. Yes. Merci Marie. Merci, merci, merci. Alors, on a tué des gens ce soir. Hein. C'était le polar, c'était la nuit polar. L'atelier polar. Sherlock Holmes, Dupin, Lupin, Rouletabille, Fred Vargas. Vous avez, tout à l'heure, quand j'ai dit Fred Vargas, vous avez toutes et tous dit « Ouais, Fred Vargas ouais. !» Voilà. Alors, merci beaucoup Clément. Merci Nanou. Merci Nicole. Merci Marie. Merci Pierre Lune. Merci Keira. Et merci Carolina. Alors, si je peux donner des mots-clés de ce qui s'est dit, je dirais... À l'envers de ses paupières, emmenait les clés haut et court dans un tourbillon qui s'accélère, vision murmurée glissée à ses pieds. Et voilà. Eh bien, on va vous laisser avec les programmes de la nuit, programmés par Stéphane. Et on se retrouve la semaine prochaine. Avec quelque chose de différent. Hein, on verra quoi. Bonne nuit.